Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Charmy. Je suis Bastien, un étudiant au CFP Charmy, qui est un centre de formation professionnelle situé à Saint-Martin-d'Air. Et je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle émission où nous allons explorer des sujets variés et passionnants avec notre équipe. Autour de moi, 4 étudiants des Charmy vont vous accompagner tout au long de cette émission. Au programme d'aujourd'hui, nous commencerons par discuter de l'intelligence artificielle et de ses impacts sur notre quotidien. Ensuite, nous allons parler de l'univers du vinyle, un format qui revient en force ces dernières années. Et enfin, nous terminerons avec une réflexion sur l'argent et le bonheur. Sans plus tarder, lançons-nous directement dans notre première rubrique sur l'intelligence artificielle. Nous allons accueillir Evan et Célian qui vont nous présenter leur rubrique sur l'IA. Comment allez-vous ?
Ça va bien et toi ?
Ça va nickel et toi ?
Ça va très bien, donc je vous laisse commencer.
Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui est sur toutes les lèvres, l'intelligence artificielle. Elle est dans nos téléphones, nos maisons, nos voitures, mais que pensent vraiment les gens de cette technologie qui change nos vies ? Pour le savoir, on est allé faire un micro-trottoir, les réponses fusent entre enthousiasme, curiosité, mais aussi quelques inquiétudes, chacun a son avis sur la question. C'est parti pour un petit tour d'horizon des idées, des doutes et des visions du futur.
Qu'est-ce que vous pensez des intelligences artificielles dans la société aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, les intelligences artificielles, pour moi, c'est de nouveaux moyens qui vont nous permettre de pouvoir innover, par exemple, sur la santé. Donc, pouvoir être guéri plus facilement et soigner des maladies.
C'est comme toutes les nouvelles technologies, bien utilisées, c'est super, mal utilisées, c'est pas bien.
Moi, je trouve, étant étudiant, que c'est un bon moyen, c'est un bon outil. Car si on s'en sert à bon escient, on peut rendre des choses très attractives, très propres. Donc je trouve que c'est une bonne chose.
Et les bons côtés, la rédaction de mes posts Facebook et Instagram. Les mauvais côtés, disons que quand je demande à ma voiture d'ouvrir les fenêtres, j'ai plus besoin de le faire physiquement, donc à mon avis ça fait peur. C'est des exemples légers, mais ça peut être poussé à l'extrême.
Je pense que c'est une bonne chose pour faciliter des projets, mais ça peut être dangereux, ça peut retirer tout l'avantage des humains.
La première chose, c'est qu'il faut toujours voir le côté positif. Ce qui est un malheur chez nous, c'est qu'on voit toujours le côté négatif. Donc, le côté positif pour moi, c'est que cette intelligence artificielle peut aider certainement la médecine, peut faire de grandes évolutions dans tout ce qui est soins palliatifs, aide à la personne. Et par contre, à contrario, je trouve qu'on est de plus en plus dans une société d'assistés où on nous amène tous sur des plateaux et on a peu de choses à choisir. Et j'ai l'impression que cette intelligence artificielle peut encore plus nous assister, aller vers carrément de l'assistance à 100% et surtout nous faire aller dans des chemins qu'on n'a pas forcément choisis, mais qu'elle aurait pu détecter par je ne sais quel principe, peu importe. Mais en tout cas... Un manque de réflexion des gens fait qu'on peut très vite tomber dans la facilité et dans l'ignorance.
Alors tout d'abord, la plupart d'entre vous trouvent que l'IA c'est une super avancée, mais généralement ça pourrait vite devenir un danger si on l'utilise mal. Entre enthousiasme et méfiance, beaucoup saluent les progrès que l'IA apporte au quotidien, du gain de temps, de la simplification des tâches, des nouvelles possibilités. Mais en même temps, vous êtes nombreux à pointer les risques, la perte de contrôle, mauvais usage ou encore l'impact sur nos emplois. Célian, dis-moi, t'aurais un avis là-dessus ?
Moi je pense que c'est une super invention. C'est sûr que si on l'utilise mal, ça peut devenir très dangereux. Mais pour le moment, il y a pas mal de progrès dessus, ce qui va pouvoir nous faire avancer dans le futur. Et toi, Evan ?
Je pense que pour révolutionner, notamment au niveau technologique, santé et autres, ça peut être un très bon moyen. Après, c'est sûr qu'il y a des risques, surtout sur la perte de contrôle et l'impact que ça peut avoir sur notre société si c'est mal utilisé. Et du coup, toi, Bastien, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, je pense que l'IA, c'est un sujet très intéressant qui va faire de forts progrès à l'avenir, mais il faut avoir une bonne maîtrise justement pour avoir un contrôle total sur cet outil. Donc, merci pour votre participation et pour votre sujet fort intéressant. Mais avant de passer à la prochaine rubrique, nous allons écouter La Bohème de Charles Aznavour.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
c'était La Bohème de Charles Aznavour et vous êtes bien sur Radio Charmy. Nous allons maintenant accueillir Jessica. Bonjour Jessica, comment vas-tu ?
Bonjour Bastien, ça va et toi ?
Ça va très bien. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un objet culte au charme intemporel, le disque vinyle. Tout commence en 1877 avec Thomas Edison et l'invention du phonographe. Les premiers disques en cire étaient rudimentaires et tournaient à des vitesses variables. Mais au début du XXe siècle, l'apparition du vinyle a marqué un tournant. Ce matériau offrit une meilleure qualité sonore et une durabilité accrue, ouvrant la voie à l'ère des 78 tours dans les années 1940 et 1950. C'est en 1948 que Peter Carl Goldmark révolutionne l'industrie musicale avec le disque micro-sillon ou long playing, permettant de lire jusqu'à 23 minutes de musique par côté. Ce format a transformé l'expérience d'écoute et marqué l'apogée du vinyle entre les années 1960 et 1980. C'était l'époque dorée où le rock'n'roll, le jazz et la pop gravaient leurs chefs-d'œuvre sur ces disques et où les pochettes d'albums devenaient de véritables œuvres d'art. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. Cependant, l'arrivée du CD dans les années 1980 a précipité le déclin du vinyle. mais ce support n'a jamais vraiment disparu. Au début des années 2000, une contre-culture a ravivé l'intérêt pour ces disques, portés par des audiophiles et de jeunes artistes redécouvrant la richesse sonore et l'authenticité qu'ils procurent. Écoutons maintenant Nicolas, passionné de musique et collectionneur de vinyles.
Bonjour Nicolas.
Salut Jessica.
Qu'est-ce qui vous a poussé, Nicolas, à commencer une collection de vinyles et que représente ce support pour vous personnellement?
Alors, ce qui m'a poussé à reprendre une collection de vinyles, c'est tout simplement un achat, un cadeau de Noël même de ma compagne et de mes enfants. Et ce support représente bien plus qu'un objet. Quand on est passionné de musique, on peut qu'aimer le vinyle.
Selon vous, qu'est-ce que le vinyle offre que les autres formats, comme le numérique ou le CD, hein, ne peuvent pas égaler?
Le vinyle est plus chaleureux. Le son analogique, c'est incomparable par rapport au numérique. Et tout ce qui est dématérialisé, c'est, ça n'a pas de charme. Le vinyle, vous possédez un objet, un visuel, un artwork avec les pochettes. Et puis, il y a un toucher. Enfin, le vinyle, c'est palpable.
Y a-t-il un disque dans votre collection qui a une valeur sentimentale ou une histoire particulière que vous aimeriez partager?
Alors, j'en ai pas un, mais j'en ai trois. Le premier, c'est qui appartenait à mon père. C'est un double vinyle de Serge Gainsbourg au Casino de Paris. Ensuite, il y a mon premier achat que j'ai effectué par moi-même. C'est Kiss Killers, qui est une compilation du groupe Kiss. Et puis en fait, la BO du film Elvis que ma compagne et mes filles m'ont offert pour Noël avec la platine pour commencer ma collection.
Comment voyez-vous l'avenir du vinyle dans un monde de plus en plus dominé par le numérique?
Alors, il a de beaux jours devant lui avec des irréductibles et des passionnés qui feront toujours vivre le vinyle. On les trouve en brocante. Il y a des rééditions par les majors qu'on peut acheter en neuf. Donc je pense que le vinyle a encore un peu d'avenir devant lui, voire même beaucoup.
Très bien, j'espère que vous avez raison. En tout cas, merci Nicolas.
Merci à vous Jessica.
Bonne journée.
Aujourd'hui, le vinyle est bien plus qu'un simple support musical. Il est un symbole de passion, de nostalgie et de lien entre artistes et auditeurs. Qu'il s'agisse de nouvelles créations ou de rééditions, le disque vinyle continue d'offrir une expérience unique à l'ère du numérique. Il marque son retour en force depuis quelques années. Nous retrouvons Julien, disquaire dans une enseigne bien connue à Grenoble. Bonjour Julien.
Salut.
Comment expliquez-vous le retour en grâce du vinyle ?
Le retour en grâce du vinyle, je pense qu'il est revenu il y a quelques années déjà, il y a une dizaine d'années, et il s'est accentué, je pense, à partir du moment du Covid et de la sortie du Covid. Il y a peut-être un besoin du retour au matériel qui est revenu, il y a peut-être une prise de confiance par rapport à ça, je pense, en tout cas, ça se voit par rapport à peu près aux chiffres de volume du support de vente depuis 4-5 ans. Il y a un retour en fait au support physique, j'ai l'impression, et même chez les jeunes générations qui reviennent à la culture de la pochette et d'avoir un objet en fait matériel chez soi plutôt que de la musique en streaming et des choses en fait qui paraissent un peu finalement obsolètes. Quelque chose de un bien matériel, un peu comme un bon vieux livre, tu vois, quelque chose que tu as, que tu ressens physiquement, où le rapport est un peu plus concret.
Quel public achète du vinyle?
Alors il y a tout, hein. T'as le collectionneur, il y a le féru qui a jamais lâché l'affaire en fait, qui a toujours acheté des vinyles. Il y a les nouveaux. Les jeunes qui s'intéressent à la musique, enfin qui sont toujours intéressés, mais qui se réintéressent aussi à ce support-là qui pour eux était quelque chose de leurs parents, voire de leurs grands-parents. Mais ils aiment en fait l'avoir des fois même plus pour la pochette et l'objet que la musique en soi, parce qu'ils vont continuer à consommer la musique un peu en streaming et tout ça, mais aussi acheter quelques pièces, on va dire iconiques, quelques albums cultes, même des classiques, je sais pas, de Beatles, ou de Pink Floyd, ou de Led Zepp, pour avoir la pochette et des trucs comme ça. Voilà, c'est un truc un petit peu presque de déco. Et t'as aussi voilà les férus de musique hein, qui aiment aussi le son du vinyle pour la sonorité particulière qu'il a. Donc en fait, t'as différents profils comme ça. Et c'est vrai que t'as ce nouveau profil aussi, c'est les jeunes qui l'aiment aussi pour le son, hein. Et mais qui aiment bien aussi ce petit rituel avec leur petite platine vinyle. Mais aussi, il y a un côté un peu objet. C'est un truc qui peut se poster sur les réseaux sociaux. Il y a aussi ça, cette tendance, tu vois, parce que c'est très Instagrammable. Tu vois, donc il y a aussi ce côté-là. Voilà, ça fait des belles photos Insta.
Le vinyle, objet de collection ou simple phénomène de mode?
Bah, les deux un peu. parce que bah il y en a forcément comme toute résurgence un peu du vinyle qu'on n'avait pas imaginé à l'époque, hein, parce que c'est vrai qu'à il y a 20 ans on avait déjà tout le monde remisait les vinyles, puis personne ne les vendait à la Fnac, ils avaient tout viré au profit du CD. Bon bah finalement il y a un petit retour en grâce effectivement, parce que même le vinyle sur certains chiffres, en tout cas peut-être pas en Europe ou en France, peut-être pas encore, mais en tout cas aux États-Unis ça fait 2-3 ans que c'est passé au-dessus du CD en termes de vente physique. Le stream reste quand même toujours quand même la grande majorité évidemment, hein. Donc il y a cette résurgence, donc forcément, il y en a, c'est vraiment dans un optique de collection. Il y a forcément, comme tout effet de, tu vois, de masse, on va dire, il y a des gens qui le suivent aussi un petit peu par tendance et qui peut-être lâcheront l'affaire dans quelques années, on ne sait pas. Après, à voir sur le long terme, effectivement, tu auras des collectionneurs et tu auras des gens effectivement qui auront peut-être suivi par la... par mode et qui vont peut-être se séparer du truc en trouvant ça peut-être un peu pénible et puis ça prend de la place, hein, c'est ça le problème, hein, c'est aussi hein, c'est et ça pèse lourd quand tu déménages et tout, voilà.
Le vinyle a-t-il un rôle d'éducation musicale chez les jeunes générations?
Ouais, carrément, les jeunes en fait se sont intéressés au vinyle et souvent en fait ce qu'ils achètent, alors il y a les artistes récents qu'ils aiment bien et qui veulent soutenir un petit peu dans la démarche, tu vois, et pas forcément d'ailleurs en écoutant forcément exactement le vinyle, mais ils aiment bien acheter l'objet parce que bah c'est pour soutenir aussi un peu l'artiste et puis voilà, mm-hmm. Et puis pour leur plaisir de collection. Mais souvent en fait ce qui les intéresse c'est d'avoir des classiques. Donc en fait ils retombent un petit peu justement sur ces vieux disques un peu à papa comme on dit quoi, tu vois, et des grands classiques comme tu disais Led Zepp, ABBA, même je sais pas les Doors là que j'ai sous les yeux, Pink Floyd, des grosses valeurs sûres en fait. Puis, c'est aussi parce que c'est des pochettes iconiques donc c'est beau à avoir comme objet. C'est presque vu comme une œuvre d'art entre guillemets accessible. C'est un peu l'œuvre les tableaux d'art du pauvre parce que tu peux pas te payer des œuvres des tableaux chez toi. Mais voilà les vinyles c'est un peu cette optique là, c'est la petite œuvre d'art de voilà modeste on va dire. Donc il y a ce truc là et du coup c'est vrai que ça leur fait une éducation parce que du coup ils écoutent ces vieux classiques finalement qui se pérennisent dans le temps. C'est pour ça que d'ailleurs ils sont toujours réédités.
Que représente la part de marché du vinyle par rapport aux autres formats?
Il a gagné du terrain effectivement parce qu'à une époque il se vendait très peu. Il talonne maintenant le CD. En tout cas, en ce qui nous concerne chez nous, on vend quand même encore plus de CD. Mais la raison, elle est simple, c'est parce que le CD, du coup, est devenu beaucoup plus accessible en termes de prix. C'est beaucoup moins cher. Et il y a aussi des jeunes qui aiment bien maintenant se remettre aussi au CD. Hein. T'as aussi un retour sur le support CD depuis quelques années parce que, ils ont aussi un peu du mal à suivre la tendance sur le vinyle parce que le problème, c'est que le vinyle, quand même, coûte un peu cher. Ça a toujours été un objet qui coûte un peu plus cher que le CD, quoique à l'époque c'était l'inverse, hein, mais il a un coût de production assez élevé, hein, parce que évidemment c'est du PVC, c'est du plastique, hein, pétrole, tout ça, donc ça coûte cher. Maintenant ils font d'ailleurs beaucoup de vinyle à partir de plastique recyclé, aussi, parce qu'il faut prendre aussi un peu conscience de ce truc un peu écologique. Hein. Et donc en fait, ouais, ça se talonne en fait, on va dire maintenant. Après en chiffres, ça représente un chiffre en volume, mais c'est pas forcément là où tu gagnes non plus énormément d'argent, parce que les marges sont un peu tendues, parce que vu que le coût d'achat est assez élevé. Alors après sur l'occasion, non, et ce qui nous permet justement d'avoir des prix un peu plus bas, plus contenu pour que les gens puissent se faire plaisir et avoir des vinyles à 10 balles ou à moins de 10 balles, qui soient corrects à l'écoute. Et parce que c'est vrai que sur le 9, malheureusement, tu es toujours sur des 25, 30, 35 euros. C'est quand même un budget.
Penses-tu que cette tendance va durer ou s'essouffler dans les années à venir?
On ne sait pas encore. Hein. Mais moi, ce que je crains, c'est l'augmentation des prix hein, qui est constante depuis quelques années, qui est compliquée à tenir. Sur le 9, hein, je parle. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Et donc, espérons que ça ne va pas décourager non plus tu vois, les clients et les acheteurs. Parce que c'est presque un placement, un vinyle, hein, c'est presque un investissement. Parce qu'il y a quelque chose, voilà. Donc, pour le moment, ça se maintient, mais faut aussi, voilà, que les distributeurs, les labels jouent un peu le jeu, parce qu'ils profitent de la tendance, effectivement, vu qu'il y a un regain d'intérêt. Les gens rachètent du vinyle, ils sont pas mis dans intérêt, ils ont grimpé un peu les prix pour essayer de marger un peu et puis de se faire un peu de beurre, quoi. Il faudrait voir, à long terme, c'est surtout par rapport à ça, que la politique tarifaire reste à peu près raisonnable pour que ça devienne pas un objet clivant, quoi. Que ce soit ceux qui peuvent se payer la culture et ceux qui peuvent pas se la payer. Pour ça, t'auras toujours la seconde main, les occasions, tout ça qui permettent de maintenir ça. Mais pour le moment, ça reste quand même depuis quelques années sur une tendance stable, voire même en hausse. Hein, donc, a priori, ça a l'air de bien marcher. On verra après hein, sur le long terme, effectivement, si ça s'essoufflera, peut-être. Parce que bon, c'est toujours cyclique, c'est comme les modes. C'est comme la mode vestimentaire, t'as des engouements sur un truc pendant 10, 20 ans. Après ça retombe, après ça revient. Si ça se trouve dans 20 ans, le CD sera le nouveau vinyle. Le CD, tu vois, on lui annonce sa mort, peut-être qu'il va revenir. Parce que le vinyle, il y a 20 ans, on disait que c'était fini. Bon, tu vois, finalement, il a fait une résurgence, personne l'a vu venir. Va savoir, peut-être que le CD, ça va être ça. Peut-être que ton CD d'aujourd'hui que t'achètes, qui a apparemment pas de valeur, peut-être en prendra il y a 20 ans, parce que personne n'achetait de vinyle, de CD à ce moment-là. Et dans 20 ans, il va devenir collector parce qu'il est devenu rare. Il peut y avoir cet effet-là.
À
Avec plus de 100 ans d'histoire, le vinyle traverse le temps comme un témoignage vivant de la musique et de l'émotion qu'elle inspire. En somme, le vinyle, c'est un peu comme un bon vin. Ça se bonifie avec le temps et ça plaît toujours aux connaisseurs. Alors que vous soyez collectionneur ou simplement curieux, sortez la platine, dépoussiérez vos disques et préparez-vous à faire danser vos oreilles comme à la belle époque. Pour les intéressés, voici quelques adresses pour vous faire plaisir sur Grenoble. Le Manche-Disque, aux deux rues Génicieux, OCD, 5 rue de Sault, la FNAC, Emmaüs et autres ressourceries et brocantes. Mais combien ça coûte, allez-vous me dire ? En ressourcerie, ça démarre à environ 50 centimes pour les 45 tours de base en grand tirage. Autrement, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour des exemplaires rares. Vous avez des 33 tours entre 5 et 35 euros. Un vinyle peut même atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros pour des albums rares aux pressages spéciaux, style Beatles, Elvis Presley, Miles Davis. Par exemple, le White Album des Beatles, dédicacé par tous les membres, s'est vendu à plus de 579 000 euros. Alors, à vos bourses.
Merci Jessica pour ta présentation. Mais avant de passer à la dernière rubrique, nous allons écouter Mélanine de Werenoi.
J'pense au refrain pâli, j'fume la bec que vanille. Bordel quand on arrive. Ce soir j'pourrais bien mettre minable. C'est que j'ai l'instinct animal. J'vois flou, visière intégrale. Bido sur la capitale.
Sur Twitter, sur Twitter, j'suis toujours entêté. J'vois son vice dans ses yeux. Elle veut m'endetter. Classe business, Mexico, j'pourrais serrer Bernice. J'connais le vice, mais elle veut prendre mon cœur avec son vernis. Avec la mélanine, vends-moi sous la graisse, défilé à l'anglaise. À l'anglaise,
j'suis défoncé sous hollandaise.
J'suis comme ce mec sous polonaise. Cadu ou Mélanie, avec la mélanine, vends-moi sous la graisse, défilé à l'anglaise. À l'anglaise,
j'suis défoncé sous hollandaise.
J'suis comme ce mec sous polonaise. Trop de liquide noir. Dans le jacuzzi, j'suis roulé que ça veut, mais j'tenais la cousine. 3 secondes sans marquer sur le compte à rebours. 60 balles, j'fais Las Vegas, aller-retour.
J'rentre dans le parc comme Joe Pesci. On a trop d'appétit. Mafia, c'est le réseau. On augmente le débit. J'vais rentrer toute la mer. C'est la meilleure qu'on ramène. C'est plus un jeu, l'ami. On est devenu professionnel.
Avec la mélanine, vends-moi sous la graisse, défilé à l'anglaise.
À l'anglaise, j'suis défoncé sous hollandaise.
J'suis comme ce mec sous polonaise. Adieu ou Mélanie, avec la mélanine, vends-moi sous la graisse, défilé à l'anglaise.
À l'anglaise, j'suis défoncé sous hollandaise.
J'suis comme ce mec sous polonaise. Adieu ou Mélanie. Avec la mélanine, bats-moi sous la graisse, effilé à l'anglaise.
J'suis défoncé sous hollandaise.
J'suis comme ce mec sous polonaise. Avec la mélanine.
C'était Mélanine de Werenoi et vous êtes toujours sur Radio Charmin. Pour finir, nous allons accueillir Iliane qui va nous parler de l'argent et ses problématiques. Bonjour Iliane, comment vas-tu ?
Eh ben écoute, ça va super et toi ?
Très bien, donc je te laisse commencer.
Donc, l'argent, ce fameux bout de papier, ces pièces de métal ou même ces chiffres sur un écran, si on y réfléchit bien, c'est fou, non ? Ça n'a rien de magique et pourtant ça régit nos vies. Mais alors, pourquoi ? Parce qu'on a décidé que ça avait de la valeur finalement. C'est une invention humaine, une idée qui a pris une telle place qu'on en a parfois oublié que c'est nous qui l'avons créée. L'argent, ce n'est ni bien ni mal. Ce sont nos choix qui lui donnent un sens. Avec, on peut faire de grandes choses, construire, partager, aider, mais on peut aussi détruire, diviser et abuser. En fin de compte, ce n'est qu'un reflet. Un reflet de nos désirs, de nos peurs, de ce qu'on porte au fond de nous. Mais alors, l'argent fait-il le bonheur ? Voyons ce que pensent les gens de cette fameuse question.
Est-ce que l'argent fait le bonheur ?
Absolument pas. Il contribue au bonheur, mais il ne fait pas le bonheur. Tout dépend si on est maître de l'argent, si l'argent est notre maître.
Ça fait pas tout le bonheur, mais je pense que ça contribue énormément sur notre vie au quotidien.
Alors, il y contribue, mais il fait pas tout le bonheur.
L'argent seul fait pas le bonheur. Après, je pense que ce serait mentir que dire que l'argent ne participe pas au bonheur, parce que si on n'a pas du tout d'argent, on n'a pas les moyens de se loger, se nourrir, etc. Forcément, ça limite l'accès au bonheur. Mais c'est pas parce qu'on est riche qu'on est heureux.
L'argent ne fait peut-être pas du tout le bonheur, mais il en achète des bouts. Parfois, un toit sur la tête, un repas sur la table, une tranquillité d'esprit. Peut-être que si, mais il y a ce paradoxe qu'on connaît tous. Plus on court après, plus il semble s'éloigner. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit le mépriser ? Non, sûrement pas. Mais il ne faut pas non plus en faire une idole. L'argent, au fond, c'est juste un outil. C'est nous qui choisissons de ce qu'on en fait. Car ce qui compte vraiment, ce sont ces choses qu'il ne pourra jamais acheter. Un rire partagé, une étreinte sincère, ou ce moment de paix où tout semble à sa place. Peut-être qu'il est temps de remettre l'argent à sa place. Non pas au centre, mais comme un moyen, pas une fin. Un simple compagnon de route, pas un guide, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas l'argent qui nous définit, mais ce qu'on en fait et ce qu'on décide de faire avec ce qu'on a.
Merci Yann pour ta rubrique. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission Radio Charmier. Un grand merci à vous tous pour votre écoute. Je tiens à remercier mes chers camarades Jessica, Evan, Célian et Ilian pour leur temps et leurs différentes rubriques toutes intéressantes. Nous avons pu explorer ces sujets passionnants et variés. Sur ce, au revoir à tous et à la prochaine.
Salut, au revoir.